Il n'y en a pas deux comme toi. Sacré caractère.
Mais tu vas changer.
Un jour, tout le monde connaîtra ton nom.
Festival du film américain de Deauville.
Et oui, c'est ça, l'Amérique ce soir dans Le Rendez-vous. Il n'y en a pas deux comme ça. En direct sur France Culture et en public depuis la cour de l'hôtel Normandie Barrière à Deauville, il sera question de James Brown, de bipolaire, de mariage gay, de Boston, de New York et même des Simpsons. Avec Maya Forbes pour son premier film Infinitely Polar Bear, Ira Sachs pour la troisième fois à Deauville qui présente cette fois Love is Strange, Chrissy Dunn Queens qui est membre du jury Révélation et Benoît Lagan.
Brian Grazer, l'un des plus grands producteurs hollywoodiens qui a travaillé avec Oliver Stone, Ron Howard et aujourd'hui Mick Jagger pour le nouveau biopic musical de la rentrée, Get On Up, la vie de James Brown.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture spécial week-end avec Zoé Sfez et le supplément Normandie, ce soir de Benoît Lagan. Et on commence tout de suite avec le son du jour, Zoé Sfez.
Antoine Duhamel avait coutume de dire que le pastiche en musique lui était naturel et cela s'entend dans cette bande originale du film de Patrice Lecomte, Ridicule. Le compositeur, c'était un mercredi à l'âge de 89 ans, fils de l'écrivain Georges Duhamel, formé à la musique entre autres par Olivier Messiaen. Il a été l'un des compositeurs d'élection de la Nouvelle Vague puisqu'il a collaboré avec Jean-Luc Godard sur Pierrot le Fou et Weekend, avec François Truffaut sur Baiser volé et La Sirène du Mississippi, et il fut, on l'oublie souvent aussi, l'un des grands complices de Bertrand Tavernier.
Merci Zoé pour ce son du jour. On se retrouvera lundi pour la suite de ce journal de la culture. Mais comme tous les vendredis, dans ce journal de la culture, eh bien un nouveau rendez-vous, c'est le spécial supplément week-end avec vous, Benoît Lagan. Qu'avez-vous mis à votre programme pour ce supplément en direct de la Normandie?
Puisque nous sommes à Deauville, un supplément week-end sur les planches avec au programme petit rétro-pédalage sur l'actualité culturelle et médiatique de la semaine et un retour critique sur une sortie très normande.
Et donc, pour commencer, un petit tour de l'actualité culturelle et médiatique. On commence par samedi dernier.
Oui, et avant de venir à Deauville, allons à La Rochelle. Et samedi, c'était Charlélie. France 2 diffusait le concert anniversaire des 30 ans des Francopholies de La Rochelle, un concert enregistré le 10 juillet dernier, qui réunissait Hubert-Félix Thiéphaine, Souchon Voulzy, etc., etc.
Christine the Queens,
Charlélie Couture, et j'en passe. En effet, Charlélie Couture, ravie d'avoir participé au concert anniversaire, découvre qu'il a été bizarrement coupé au montage. Il poste alors le lendemain de la diffusion un billet sur Internet dans lequel il livre son incompréhension et écrit « J'ai la gorge sèche, lessivée, me voilà effacée, Javel, je n'existe pas ».
Et après son billet de dimanche, que lui a-t-on répondu lundi?
Eh bien, le directeur artistique de la soirée, interrogé par Télérama, a donné sa réponse. Oui, nous avons dû couper Charlélie Couture au montage, tout comme Les Innocents et Ben l'Oncle Soul. Et c'est tout à fait regrettable. Mais la captation était trop longue. Nous avons choisi de conserver surtout les artistes qui avaient fait le déplacement exclusivement pour cette soirée. J'ai prévenu les invités via les maisons de disques. Vers le 22 août, l'info a peut-être mal circulé. J'aurais sans doute dû vérifier. Samedi soir dernier, donc, les Francopholies sans Charlélie, c'était un petit peu comme...
Un avion sans herbe. J'ai chanté toute la nuit.
Mardi, à Deauville, la star était un affranchi.
En effet, la tradition ici, c'est d'attribuer une des 400 cabines de bain qui bordent la célèbre promenade aux invités du festival. Et mardi, une cabine a été attribuée à Ray Liotta, le comédien américain à l'affiche de Sin City cette année, connu surtout pour ses rôles de méchant, flic véreux ou mafieux. En effet, si le rôle de Tony Soprano lui était à l'origine destiné, on se souvient surtout de lui pour son interprétation du gangster Henry Hill dans Les Affranchis. Ce sont ses amis corses de mafiosa qui vont être jaloux.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
On est là pour régler nos problèmes, c'est pas comme ça?
Nos problèmes?
On est entré dans cette affaire ensemble, on va la régler ensemble.
On va régler quoi? Il n'y a plus rien à régler puisqu'il n'y a plus de sous.
Mercredi, les mercenaires sont de retour.
Oui, 60 ans après sa sortie, nous avons appris que le célèbre western tourné en 54, Les Sept Mercenaires, aurait droit à son remake. Et qui aura la charge de faire avaler la dragée? Eh bien, un certain Antoine Fuqua.
Non, c'est pas vrai, il s'appelle comme ça.
Oui, présent au Festival de Toronto. Et il a annoncé la mise en production du film et a déclaré avoir déjà recruté l'un des sept, Denzel Washington. Jusqu'ici, ça va.
C'est pour vous que je crains. Est-ce que vous êtes prêts? S'il venait maintenant, êtes-vous au point?
Ça me rappelle ce bonhomme qui, chez moi, dégringolait du 10e étage.
Oui, quel rapport?
Comme il passait devant chaque étage, les gens pouvaient l'entendre répéter « Jusqu'ici, ça va ».
Et enfin jeudi, un géant a disparu.
Oui, hier, le monde du cinéma américain était en deuil puisqu'on a appris la mort à l'âge de 74 ans de Voltaire. Richard Kiel, le géant d'Hollywood, abonné souvent au rôle de méchant, s'en est allé. Vu dans plusieurs films et séries télévisées, il était Voltaire, l'un des ennemis jurés de James West dans Les Mystères de l'Ouest. Et il restera pour beaucoup le requin, le géant aux dents de fer, l'ennemi de James Bond dans Moonraker et l'espion qui m'aimait, Ciao l'artiste.
Vraiment dire qu'il est parti la queue entre les jambes.
Je suis consterné, monsieur Bond.
Moi aussi, je suis consterné par cette transition. Et le vendredi, dans le supplément, c'est le retour sur critique.
En effet, chaque vendredi, je vous propose à ma manière un retour sur critique. Et pour cette émission spéciale en direct du Normandie, dans un festival où on ne s'ennuie jamais, coup d'œil critique sur un film tourné non loin d'ici, dans la région entre Rouen et Elbeuf, Gemma Bovary, le film d'Anne Fontaine, qui est l'adaptation française d'une BD anglo-saxonne de Posy Simmons, qui revisite à sa façon Emma Bovary, un film dont nous parlions déjà mercredi au rendez-vous, Laurent, avec Elsa Silberstein.
Alors, qu'en a pensé la critique ?
Eh bien, en lieu et place des traditionnels critiques parisiens, j'ai préféré me tourner bizarrement vers les critiques d'une presse plus concernée, la presse lue en Normandie. Alors, pour Pierre Fornereau de Ouest-France, Lucini a bizarrement, je cite, l'élégance et le discernement de ne pas trop en faire en restant totalement au service de la fantaisie de ce divertissement. Et pour le critique de Paris-Normandie, la campagne normande, baignée de lumière, sert d'écrin aux promenades des protagonistes et de leurs émois dans une savoureuse comédie flaubertienne. Et d'ajouter, difficile d'imaginer un autre acteur que Lucini, à la fois narrateur et héros de l'histoire, pour camper cet homme imprégné de littérature. Mais, Laurent, bizarrement, une question me taraude. Est-ce difficile d'imaginer que quelle citation Lucini, lors de sa venue à Rouen, a pu offrir au journaliste de Paris-Normandie quand ce dernier l'a interviewé ? La réponse par l'extrait.
Ça fait penser à la phrase de Paul Valéry. Alors, je rassure tout le public, ce film n'est pas une accumulation de citations littéraires. Ce film, il est organique, il est physique. C'est l'histoire amoureuse. Un homme tombe amoureux. C'est banal, on l'a entendu. Et bizarrement, ce film irradie quelque chose qui nous emporte dans un enthousiasme complet.
Et bizarrement. C'est vraiment Fabrice Lucchini. Allez, on commence tout de suite.
Le rendez-vous. Deauville. Extérieur. Extérieur.
J'ai été trop rapide, c'est ce qu'on me dit souvent. Plateau bipolaire avec vous, Maya Forbes, scénariste, productrice et cinéaste américaine. Vous êtes présente à Deauville ce week-end pour y présenter votre premier long métrage, Infinitely Polar Bear. C'est l'histoire d'une famille dans les années 70. Le père est bipolaire et il se retrouve à élever seul ses deux filles dans la banlieue de Boston pendant que sa femme noire doit reprendre ses études à New York pour trouver un boulot afin de subvenir aux besoins de sa famille. C'est un film, on le sait, qui est inspiré de votre propre histoire puisque vous avez vous-même été élevé par un père maniaco-dépressif. À quand remonte votre désir d'en faire votre premier film de cinéma ? Quel a été l'élément déclencheur, Maya Forbes ?
I wanted to make this film because I felt like I hadn't seen a lot of depictions of mental illness that felt real to me.
Always in the au cinéma de maladies mentales qui étaient réalistes au cinéma, qui pourraient être,
it's a serious illness,
qui drôle.
Still, my father was quite funny.
C'est vrai que mon père à moi était drôle lui-même.
And I guess a big reason was I loved him a lot.
Mais une des raisons, c'est que je l'aimais beaucoup. Il m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie, à moi et à ma sœur.
One thing that my father did for us is he said to
us, "You
do not have to tell people. You don't have to hide that I'm bipolar. You don't have to not tell your friends."
Il m'a dit, "Tu n'as pas à cacher le fait que je sois bipolaire. Tu n'as pas à le cacher auprès de tes amis."
Feeling ashamed or unable to explain why our father seemed odd sometimes.
Je n'avais pas expliqué pourquoi mon père était un peu bizarre parfois. Ça nous a vraiment permis d'être ouverts dans notre vie. Et je pense que c'était quelque chose d'assez important. C'était une histoire importante à raconter. Beaucoup de gens ont des gens dans leur vie qu'ils aiment beaucoup et qui ont ce genre de problème, et je voulais raconter cette histoire.
Est-ce qu'il y a des films de famille comme ça, à caractère autobiographique, qui vous ont marqué, Maya Forbes?
The 400 Blows, very important to me. Small Change, also very important to me. Squid and the Whale is a movie I love. I would say that those, My Life as a Dog.
Tous ces films, ou My Life as a Dog, sont des films qui ont été importants pour moi.
Pour quelle raison ces films-là vous ont pas plus particulièrement touché?
J'ai pensé que, je pense que ces films étaient réels, véridiques, authentiques. En fait, je ne sais pas pourquoi ces films étaient si importants pour moi. J'ai jamais fait d'analyse vraiment là-dessus. C'est des films qui étaient drôles et tristes en même temps. Small Change également. Mon babysitter m'a emmené voir ce film quand j'étais toute petite. J'ai dû le voir un nombre incalculable de fois.
Vous situez votre film L'argent de poche. Justement, à ce propos, tout à l'heure, on parlera de votre film Area Sachs, qui a aussi une dimension topographique. Je sais que vous êtes particulièrement au fait du cinéma français. Est-ce que c'est le cinéma français, par exemple Maurice Piella, qui vous a autorisé à avoir cette dimension autobiographique dans votre propre parcours?
I think I've learned a lot.
Je pense que j'ai appris beaucoup via le cinéma français. Parce que c'est un cinéma très personnel. Il y a une vraie vision. On a l'impression que c'est vraiment fait à la main, quelque part, entre guillemets. Je
ne
dirais pas que ces films m'ont donné une permission, mais ça m'a donné quelque chose de plus profond sur lequel j'ai pu m'appuyer. Mais lorsque je réfléchis, il y avait un film, Avant que j'oublie, qui a déclenché quelque chose en moi. La transparence en tant qu'un réalisateur qui se joue lui-même en tant qu'homme homosexuel, c'est quelque chose qui m'a inspiré pour Keep the Lights On, mon film précédent.
Maria Forbes, le film est traversé par des images en Super 8, des images de films de famille amateurs. Or, à la fin du générique, vous glissez une photo de vos propres parents et votre père a un appareil photo en bandoulière. C'est vous qui vous filmez, qui vous photographiez quand vous étiez enfant? Est-ce qu'il y avait des dispositifs spéciaux pour ces séances de photographie? Est-ce que vous avez des souvenirs liés à cela?
My father always had a camera.
Avait toujours un appareil photo. Il prenait des photos ou il était en train de filmer. Et ce que j'étais capable de faire, les films qu'il a filmés dans les années 70, on a refait ces séquences avec mes comédiens. Et ça m'a permis d'avoir des vieilles voitures, des vieux autobus, de mélanger comme ça les séquences. Et voilà, c'est ce qui m'a permis d'avoir cet aspect. Et il prenait également des Polaroids. Et quand on était en train de faire le film, on a pris nous-mêmes des Polaroids et on les mettait sur la table. Et donc, c'est un mélange de Polaroids qui ont été pris par mon père et par nous-mêmes pendant le tournage.
Harris Sachs.
Pour moi, il y a beaucoup de différence entre faire un film autobiographique et faire un film personnel. Un de mes films était autobiographique. Love is Strange n'est pas autobiographique.
Il est basé sur des éléments personnels.
Mais c'est basé sur des sentiments personnels. Et je crois que c'est le premier de mes films
qui racontait votre relation d'amour avec un écrivain américain, en effet, le premier. Le premier.
Le film précédent, ça parlait de 10 ans de ma relation. Mais en parlant vraiment de Love is Strange, ce qui est très personnel, c'est l'optimisme qui est dans le film. Quelque chose qui est difficile de traiter de l'amour comme quelque chose avec beaucoup d'espoir.
On y reviendra plus particulièrement dans un instant. Benoît.
Oui, Maya Forbes, vous dites que le traitement de la folie est trop souvent au cinéma tragique. Vous teniez donc à faire une comédie avec un personnage qui, par ses écarts, sa bonne volonté d'être parfois un trop bon voisin et toujours prêt à rendre service, fait honte à ses filles et fait fuir le voisinage. Quand on filme un personnage de ce type, un personnage qui n'entre jamais dans le cadre, qu'est-ce que cela impose en termes de cinéma, en termes de cadrage?
On va la reposer. Le fait d'avoir un personnage un peu borderline, c'est-à-dire un personnage qui n'entre pas véritablement dans le cadre, qu'est-ce que cela suppose quand on doit le filmer en termes de cinéma? Quelles sont les idées de cinéma qui s'appliquent avec un tel personnage, Maya Forbes?
I still don't understand the question. You mean the comedy? The comedy?
Oui.
The comedy?
Rattachez-vous à ce que vous pouvez.
Whatever. Not,
allez-y.
Whatever. I wanted to tell the story of a family with the
famille,
ups and the downs, you know, sort of a celebration
avec
of what it is to be in a
bas,
family, which means there's lots of nice things and lots of awful things.
Dans une famille avec des très belles choses, des choses horribles.
Everybody looks back in their childhood and there's lots of, you have plenty of miseries, but there's also lots of joys.
Dans son enfance, il y a beaucoup de joie, il y a aussi beaucoup de souffrance.
The manic depressive character,
le personnage maniaco dépressif,
eh
bien, il représente tous ces hauts et ces bas que l'on peut ressentir, beaucoup de joie. Parfois, et également beaucoup de tristesse.
So I didn't want to tell a downer of a movie. I didn't want it to be sad.
Je voulais pas faire un film
sad.
Pessimiste, triste. Bien sûr, bon, il y a beaucoup de tristesse, mais je voulais également apporter la joie, le fait d'être dans une famille où tout le monde s'aime. Voilà, c'est aussi quelque chose que je voulais traiter.
Vous êtes connue à Hollywood pour être une scénariste de comédie. Vous aviez travaillé sur la série comique Larry Sanders, un show de HBO. Le fait d'être élevé par votre père, est-ce que ça a participé à la construction de votre propre sens de l'humour, Maya Forbes?
Yes, it did very much.
Oui,
my father
beaucoup.
Was he was very funny.
Mon père
was very,
était très drôle.
He was not. He did not have a mean-spirited sense of humor.
Mais son humour n'était pas mal tourné. C'était pas méchant.
And he loved to tell stories.
Il adorait raconter des histoires. À propos des choses qu'il faisait lorsqu'il était très maniaque. Il n'essayait pas de les cacher. Quelques-unes de ces histoires sont horribles. Mais quand on y repense, finalement, ça devient drôle.
Vous dites que vos parents ne sont pas pour rien dans le fait que vous ayez choisi l'écriture et la réalisation au cinéma et que votre sœur se soit dirigée vers la musique, hein, les chanteuses de Pink Martini. En quoi précisément, de quelle lecture, peut-être quel film ou quelle ambiance musicale régnait chez vous, Maya Forbes?
My parents worked in the theater when we were young.
Travaillaient au théâtre lorsque nous étions enfants. Ma mère était productrice. Mon père s'occupait de faire des décors et également s'occupait d'une compagnie dans laquelle il y avait des gens comme Al Pacino.
And then my father loved to tell stories.
Mon père adorait raconter des histoires.
And he loved to sing.
Il adorait chanter.
And I think that's why my sister became a singer.
Et je pense que c'est la raison pour laquelle ma sœur est devenue chanteuse.
Why I became a storyteller is that I
et pourquoi je raconte des histoires moi-même maintenant?
The stories that he told.
Parce que j'adorais les histoires qu'il racontait lui.
I started telling my daughters because my father died in 1998.
Et donc je racontais ces histoires à ma fille. Mon père est mort en 1998.
And that sort of started me on the journey of writing the script.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des histoires.
Christine and the Queens, vous savez pourquoi vous êtes devenue chanteuse?
Je pense que je comprends un peu mieux pourquoi familiale. Maintenant. Après, ouais. C'est vrai que la musique est arrivée, moi, plutôt comme un accident de parcours. Je le dis souvent parce que c'est vrai que j'avais fait pas mal de théâtre avant. J'étais intéressée par l'écriture et j'avais pas pensé forcément à la musique. Mais maintenant que je me rends compte que j'en fais et que j'en fais beaucoup, je me dis que c'était peut-être un moyen de réconcilier beaucoup de choses que j'aimais faire mais que j'arrivais pas à relier correctement. C'est-à-dire que j'aimais écrire, j'aimais danser, j'aimais la scène. Mais tout ça ne s'imbriquait pas très bien jusqu'à présent en théâtre. Et je pense que la musique a été peut-être le seul élément qui me permettait de faire tout ça en me sentant à ma place.
Voilà. Maya Forbes, quand vous écrivez des chansons, j'imagine pour votre sœur, qui est la chanteuse de Pink Martini, quel genre de chansons? Des chansons comiques ou des chansons bien mélodramatiques?
When I write songs?
Ouais.
When I love to write songs,
bon, j'adore écrire des chansons.
Funny songs.
En général, j'écris des chansons plutôt drôles. J'ai écrit des chansons un peu absurdes pour le film.
But the songs I've mostly written. Mais I wrote one song with my sister for her band called Dos Badania, Mio Bambino.
J'ai écrit une chanson notamment pour le groupe de ma sœur.
Je crois que cette
chanson est très théâtrale, très drôle.
And so my sister and I like to write together. She actually wrote and recorded a song for the final.
Ma sœur a écrit une chanson qu'elle a interprétée pour le générique de fin de mon film, et ça a beaucoup de sens pour moi. C'est pas vraiment une chanson de Pink Martini, c'est une chanson qui va bien avec la tonalité du film.
Glasses, I can't find my glasses. Has anybody seen my glasses?
Please God, not today.
We are gathered here today with the purpose of uniting in matrimony George Esteban Gurrea, Benjamin Arthur Hull.
Yes.
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 Your love, your dedication, your commitment to each other are an example to be followed.
Word got out to the Archdiocese.
You've all known this whole time that Ben and I have been living together.
The decision is effective immediately.
Plateau Famille recomposé avec vous, Ira Sachs, réalisateur. Troisième fois que vous êtes ici en compétition à Deauville avec aujourd'hui votre dernier film, Love is Strange, dont on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce. C'est l'histoire d'un couple gay qui décide de se marier après 39 ans de vie commune. Ben, 71 ans, est peintre. George travaille plutôt dans la musique. Mais suite au licenciement de George, eh bien, ils sont contraints de vendre leur appartement, de déménager et de se faire héberger, c'est jamais facile, chez leur famille, proches et leurs amis. Le film n'est pas très éloigné de votre propre vie, bien que ça n'ait aucun rapport, puisque vous n'avez pas du tout l'âge des personnages. Mais vous-même, vous vous êtes marié avec le peintre qui a réalisé d'ailleurs le générique de votre précédent film. En fait, le film pose la question de la transmission et de l'éducation des enfants, puisque ce couple homosexuel va servir de révélateur au fonctionnement des familles qui l'hébergent. Et je me demandais si ces questions d'éducation, vous vous les posiez aussi à titre personnel, sachant que vous avez des enfants.
Yes, you know, it's a hard film to describe in
simple
words.
C'est un film qui est difficile à décrire avec des mots simples.
If it's successful, to me, the film is really about perspective.
Pour moi, le film, c'est vraiment un film de point de vue, une question de point de vue.
It certainly doesn't have a message to teach.
Il y a pas de message comme quoi il faut enseigner ceci ou cela. On s'enseigne des choses de l'un à l'autre en tant que membre d'une même famille.
And the film questions what is taught, but
parle beaucoup de cela, de qu'est-ce qu'on nous enseigne.
And its heart is about the different positions and the different perspectives we each
have on love based on
where we are in our lives.
De différents points de vue que nous avons par rapport à la question où est-ce que nous en sommes dans nos vies.
So you have John Lithgow and Alfred Molina,
John Lithgow et Alfred Molina jouent donc un couple qui sont ensemble depuis 30-40 ans.
Et
vous avez Marissa Tomei qui joue un personnage qui est au milieu de sa vie, qui se demande qu'est-ce qu'elle peut attendre de sa vie sur le thème de l'amour, etc. Puis il y a ce jeune garçon qui découvre finalement qu'est-ce que l'amour, la vie a à offrir pour son futur. Et donc, il y a cet aspect cyclique de la part des personnages.
Vous avez fait appel pour ce film à deux grandes figures du théâtre, John Lithgow et Alfred Molina. Pour quelles raisons ? En souvenir, par exemple, de vos premières années où vous mettiez en scène du théâtre ?
Oui, lorsque j'ai terminé le scénario, la première personne à qui je l'ai envoyé, c'était Alfred Molina. La manière dont il joue dans le film Boogie Nights, c'est vraiment resté dans mon esprit. C'est un personnage tellement incroyable et tellement authentique dans sa performance. Il y avait vraiment un côté vécu très important. Alors, il était là dès le départ. John Lithgow, ensuite, son nom a été suggéré. Et Alfred Molina et John Lithgow, ils sont amis depuis 20 ans. Et donc, évidemment, c'était quelque chose qui était intéressant d'avoir. Ce qu'on ne savait pas lorsqu'on a fait le film, c'est qu'ils tomberaient amoureux sur le plateau de tournage. Pas d'une manière romantique, mais c'était une amitié romantique. Et qui est vraiment devenue une authentique amitié très très forte, et on ne pouvait plus les séparer. On a essayé de retrouver un peu de cette intimité dans le film.
Dans la façon que vous avez de diriger les acteurs, est-ce qu'il reste quelque chose de votre expérience théâtrale dans les années 80?
Oui, j'ai commencé au théâtre. Et moi, ce que j'ai appris à faire lorsque je faisais le film, c'est d'arrêter de parler comme ça. Parce que beaucoup de réalisateurs aiment parler. Et moi, ce que je fais lorsque je filme, j'essaie de disparaître, de me mettre en arrière. Et donc, on ne fait pas de répétition. On n'écoute pas les dialogues. On ne fait pas de lecture. On ne discute pas du film. Tout ce qui est les sous-entendus, les descriptions, pour moi, ça devrait être banni d'un scénario. Je pense que tout devrait être découvert petit à petit de la part même des acteurs. Alors pour moi, un réalisateur comme Piala, par exemple, a été vraiment important pour moi parce que tout arrivait au moment où il faisait le tournage, au moment où personne ne s'y attendait.
Benoît Lagan.
Christine, vous avez suivi une formation au Conservatoire d'art dramatique de Lyon et j'ai pu lire que vous ne vous sentiez pas à votre place comme comédienne, c'est-à-dire ?
Je pense qu'il y a eu conjugaison de multiples facteurs à cet endroit-là. Je pense que moi, j'ai eu des conflits avec l'équipe pédagogique sur place. Et aussi, je pense que le vrai problème, et c'était un problème personnel, c'est que je ne me sentais pas comédienne. C'est-à-dire que je ne me sentais pas aussi prête, moi. Je ne me sentais pas à l'aise dans ce travail de... Peut-être que j'avais du mal à lâcher prise ou que je ne me sentais vraiment juste pas à ma place. J'avais plutôt tendance à vouloir être de l'autre côté, de vouloir diriger, de vouloir... Je pense aussi que je voulais être dans une démarche plus personnelle. Et ce qui me va aussi bien avec ma musique, c'est que je compose pour moi. Du coup, c'est une manière aussi de se mettre en scène sans être dans le narcissisme. Mais c'est juste que je me sens plus à l'aise avec les personnages que je m'écris, je crois.
Puisque vous êtes ici membre du jury Révélation à Deauville, qui rendra donc son verdict demain soir, je voudrais savoir, dans la production américaine récente, ou peut-être même passée, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, Christine and the Queens ? Ça fait bizarre de vous appeler comme ça, parce que c'est le nom d'un groupe. Vous
oui.
appelez Louise ou Christine and the Queens ?
Vous pouvez m'appeler Christine, ce qui est un compromis entre les deux.
Parfait.
J'étais en train de réfléchir du coup à votre question. Je crois que ce qui m'intéresse... Enfin, alors moi, je cite toujours un réalisateur américain qui m'a beaucoup marqué, c'est Cassavetes. Cassavetes. Il y a un film qui s'appelle Opening Night qui m'a énormément marqué. Après, je ne sais pas vraiment si c'est parce que c'est un film américain ou si c'est parce que c'est un vrai personnage aussi qui m'a énormément touchée ou si c'est un sujet qui m'a particulièrement marqué. C'est vrai que je ne sais pas si je m'y connais assez en cinéma américain ou pour vous dire ce qui me plaît dans le film américain. Ce qui me plaît aussi, c'est souvent des personnages d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'aime un film comme Aguirre, La colère de Dieu, qui n'est pas un film américain. Je crois que j'aime assez... J'aime assez suivre un personnage dans un film.
Harry Sachs.
I just want to say that you know I saw Opening Night in 86.
Je veux dire que j'ai
Paris.
Vu le film Opening Night.
It was the first time I'd heard of John Cassavetes.
Yeah. C'était la première fois que j'entendais parler de John Cassavetes. Et c'est intéressant quand on parle encore une fois du thème du point de vue parce que j'ai vu tous les films de Cassavetes. Et celui-là, j'ai vraiment, c'est vraiment le film que j'ai préféré, que j'ai aimé le plus. Parce qu'il y a une vraie maturité. Et au départ, ce n'était pas mon film préféré, mais maintenant, c'est vraiment mon film préféré de Cassavetes, parce que ça fonctionne.
Le cinéma américain, on pourrait dire même que vous l'avez dans la peau, puisque vous êtes fait tatouer six mots du film Freaks de Todd Browning. Quels sont ces mots et que représente ce film pour vous, Christine ?
Alors c'est une petite citation assez importante du film. C'est « We accept you, one of us ».
One of us ici. C'est, ah d'accord.
Voilà. Sur les deux, oui, c'est en deux parties.
C'est en deux parties. Sur les deux bras.
C'est vrai que voilà, j'allais dire qu'en fait, il y a des films qui m'ont marqué. Freaks est l'un d'entre eux. Je l'ai vu assez jeune, donc il m'a vraiment aussi beaucoup impressionné. Même l'esthétique du film et l'histoire du film m'a beaucoup impressionné. Je crois que c'est le plus beau film sur la tolérance que j'ai jamais vu. Et en même temps, c'est un film qui est assez effrayant aussi, avec une vraie proposition que j'ai pas revue trop par la suite. Et cette phrase-là me plaît beaucoup parce que c'est à la fois. Enfin, c'est une des scènes les plus marquantes du film. Je sais pas, je vais pas peut-être pas raconter le film, mais pour ceux qui l'ont pas vu, ça raconte. C'est l'histoire d'un cirque, d'une foire aux monstres qui est donc avec des personnages un petit peu monstrueux et une jeune fille assez belle, assez normale, comme on pourrait le dire, va essayer de se marier, va essayer de profiter de la naïveté d'un des monstres, d'un des freaks qui est tombé amoureux d'elle. Et le propos du film, pour moi, c'est que les monstres ne sont pas ceux que l'on croit. Et cette phrase-là est l'une des phrases les plus marquantes d'une scène où on se recrée une famille, c'est-à-dire que ces monstres-là se sont trouvés entre eux. D'ailleurs, vous avez dit quelque chose de très beau à Hera Sachs juste avant votre film, c'est qu'il y a plusieurs familles dans une vie et qu'on peut se créer aussi une famille. Voilà, je suis en train de délirer philosophiquement.
Merci Christine. Je sais qu'on doit vous libérer parce que
oui,
vous avez autre chose à faire ici pendant le festival puisque vous êtes membre du jury Révélation. Retour au film Hera Sachs qui traite notamment une thématique autour du mariage gay et de la famille. Je crois que le film a été perçu de façon polémique aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé autour de ce film ? Quelle a été sa réception ?
The film received an R rating,
le film a reçu une classification R de la part de l'office de classification des
films. Ça signifie
which means that minors under the age of 17 have to be
que les mineurs en dessous de l'âge de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte pour voir le film.
And the nominal reason is because of language.
Et la raison officielle, c'est à cause du langage qui est utilisé. Moi, je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire sur cette radio, mais il y avait beaucoup de mots qui commençaient par F et MF.
Oui, comme dans tous les films de Scorsese.
Bien sûr. Mais
ce sont des décisions subjectives. Et je crois que le fait qu'il y ait deux personnages homosexuels dans le film a sans doute influencé la décision.
What is actually
of interest to me and does affect me emotionally is that
ce qui, moi,
what I realize is that that this is very much a family film. I mean,
c'est un film qui parle surtout de famille. Sur d'une manière très personnelle, et j'ai des amis qui n'emmènent pas leurs enfants voir le film parce qu'ils pensent, parce qu'il y a marqué classification R et puis il y a marqué gay, et donc ils pensent que. Et moi, pour moi, c'est malheureux. Mais ces classifications aux États-Unis ont un impact très fort.
Maya Forbes, c'est peut-être un commentaire sur ce que vous venez d'entendre.
I also have an R rating and
moi aussi mon film a été classé R.
I also have a family film.
C'est pas vrai, R aussi.
Et j'ai aussi un film qui traite de famille.
And I would agree that I
suis d'accord.
Sort of astounded that incredibly violent.
Moi, pour moi, il y a des films qui sont extrêmement violents où les gens sont massacrés.
You know, kids are allowed to go to those,
et les enfants ont le droit d'aller les voir.
Frankly,
mais quand c'est une famille qui se parle honnêtement,
so
avec sincérité,
it's very confusing to me, and
pour moi,
c'est très
bizarre.
It's interesting because it sounds like Ira's movies about love.
C'est intéressant
my
parce
about
que
love,
le film d'Ira est à propos de l'amour, le mien aussi. Mais bon, manifestement, ce n'est pas approprié pour les enfants.
Benoît,
un des enjeux de votre film, Ira Sachs, c'était aussi de filmer New York. Votre premier film se passait à Memphis, mais vous filmiez très peu Memphis. Cette fois-ci, qu'est-ce que New York vous imposait en termes de réalisation?
I lived in Memphis until I was 17.
J'ai vécu à Memphis jusqu'à mes 17 ans. Et j'ai quitté Memphis. Mais 10 ans plus tard, c'était l'endroit que je connaissais le mieux. Et maintenant, ça fait 25 ans que je vis à New York. C'est devenu une part de mon ADN, quoi. Nous, on voulait faire un film romantique qui se passe à New York. Donc, un film comme Manhattan, par exemple, un film très important, ou Anna et ses sœurs. Parce que c'est un film dans lequel on voit une famille dans cet appartement new-yorkais. Moi, je crois que ce que j'offre en tant que réalisateur qui fait un film à New York, je viens de l'intérieur. Donc il y a une réelle intimité avec la ville qui est vraiment organique. En même temps, j'essaie de prendre des images qui vont résonner d'une manière très visuelle.
Et quand on filme Boston, Maya Forbes, qu'est-ce que ça implique en termes de réalisation?
I'd always said I was going to definitely shoot this film in Massachusetts.
Je savais que j'allais filmer le film au Massachusetts.
We ended up shooting in Providence, Rhode Island, which looked more like the Massachusetts of my youth.
Rhode Island.
And
un endroit de ma jeunesse.
Again, just to talk about
mais maintenant,
a Truffaut film,
pour reparler d'un film de Truffaut,
de Poche,
L'argent de Poche,
I was inspired by that film
j'étais inspiré par ce film parce que
the background is very simple and organic. It's all the stone,
tout ce que l'on voit
and
à l'arrière-plan, c'est très, c'est organique, c'est naturel, avec toutes ces pierres.
Very nice, simple and organic, and very authentic background.
And les enfants et les
New England, it's brick,
les enseignants
it's brick
avaient
and stone, and it felt like a place where we could
toutes ces pierres à l'arrière-plan et
the period look that we were.
Et moi, je voulais retrouver un aspect donc de la fin des années 70 pour ce film.
There's a certain nostalgia to the film.
Il y a une espèce de nostalgie.
It's not because in Massachusetts then was going through a recession and
mais le Massachusetts, eh bien, c'est un état qui ne va pas très bien en ce moment économiquement parlant, et donc c'est très gris, il y a des textures que je voulais retrouver.
Merci Maya Forbes, merci Rob.
Merci.
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 Le rendez-vous Deauville.
Plateau production avec vous, Brian Grazer, immense producteur hollywoodien pour le cinéma comme pour la télévision. Le festival de Deauville vous rend hommage cette année. Vous êtes le producteur depuis les années 80, depuis le début des années 80, de tous les films du cinéaste Ron Howard, Apollo 13, Un homme d'exception, Horizon lointain. Co-producteur de nombreuses séries télévisées, 24 heures chrono ou encore De la Terre à la Lune avec Tom Hanks. Et vous présentez ici ce soir à Deauville Get On Up, centré sur la vie de James Brown, un film signé Taylor, qui sortira en salle le 24 septembre prochain. On écoute la bande-annonce.
Il n'y en a pas deux comme toi. Ta maman, c'est pas une idiote. Sacré caractère. Mais tu vas changer. Un jour, tout le monde connaîtra ton nom. James Brown.
Alors, tu veux devenir chanteur?
Oh non, monsieur. J'aimerais plutôt faire mécanicien.
T'as un problème?
Tu fais de la musique?
1, 2, 3, 4!
Y'a un souci, Jezel?
On peut pas jouer comme tu veux, ça colle pas à la musique.
Est-ce que ça sonne bien?
Ouais.
Est-ce que ça donne bien?
Ouais.
Si ça sonne bien et que ça donne bien, c'est musical.
Il y a une femme qui dit être ta maman.
Mon bébé passe à l'Apollo.
Je suis pas ton bébé. Ni à l'époque, ni aujourd'hui. Je prends soin de James Brown. Personne m'a aidé. Personne.
Brian Grazer, ce film sur James Brown, ça fait plus de 15 ans que vous y pensez. Le premier à qui vous en aviez parlé, c'était James Brown lui-même. Comment vous lui aviez présenté ce projet et comment il avait réagi?
J'étais capable de parler à James Brown lui-même, donc. La première fois, j'étais à un concert et puis je l'ai rencontré en dehors de sa loge. Et je l'ai fait plusieurs fois. Et après trois visites à James Brown, je lui ai dit « Ce serait pas mal de faire un film sur ta vie ». Il était intéressé, mais ça a pris quand même pas mal de temps pour le convaincre.
Alors c'est Ted Taylor, le réalisateur de La couleur des sentiments, qui réalise Get On Up. À quel moment du projet arrive-t-il? Est-ce que finalement c'est un projet de producteur ou un projet de réalisateur qui vient ensuite vous voir?
C'était un projet du producteur, évidemment. Bien sûr, comme toujours. J'ai eu ce projet, et puis au départ j'ai pensé à engager Spike Lee, et puis j'ai pensé à d'autres réalisateurs, et puis j'ai perdu les droits, et finalement les droits sont arrivés 14 ans plus tard dans les mains de Mick Jagger.
Qui est votre coproducteur?
Qui est mon coproducteur, oui. Et moi j'ai connu Mick Jagger, je le connais depuis 20 ans. J'avais un bon scénario, j'ai produit des films, et lui il avait les droits de la musique, donc on est devenu partenaire.
Justement à propos de musique à l'écran, vous êtes aussi le producteur d'une nouvelle série télévisée, Empire, une série de Lee Daniels sur le monde du rap, c'est ça? Il en est où ce projet, Brian Grazer?
Lee Daniels et moi, on a été à l'origine du projet, écrit par quelqu'un qui s'appelle Danny Strong. Et moi, j'ai eu beaucoup d'expérience dans le monde du hip-hop. Et Lee, c'est un excellent réalisateur, metteur en scène d'acteurs. On est devenus partenaires. Et c'est quelque chose de très, très sexy. Une série télé très sexy qui se passe dans le monde du rap.
Le biopic musical, c'est un genre en soi. Il y a eu Walk the Line sur Johnny Cash, Bird sur Charlie Parker, il y a eu Evita. Quel est le cahier des charges quand on s'attaque à ce genre-là, le biopic musical?
La liste des choses qu'il faut faire, je crois qu'il faut commencer avec le bon sujet. Un sujet qui donne envie d'en parler. Et puis, il faut trouver un très bon acteur pour interpréter le musicien que vous essayez de décrire. Nous, on a eu beaucoup de chance. Val Kilmer a fait un excellent Jim Morrison, par exemple. C'est beaucoup plus difficile avec James Brown. James Brown, c'est très difficile de l'interpréter. On a eu beaucoup de chance que Chad soit aussi exceptionnel dans son interprétation, qui a montré vraiment les aspects les plus bas de la vie de James Brown, mais également les aspects les plus hauts. Et il a fait 9 morceaux musicaux et c'était très très beau.
Quelles étaient les difficultés justement pour interpréter James Brown plus qu'un autre musicien, Brian Grazer?
Vraiment, la chose la plus difficile, c'est le fait qu'il dansait. Parce que tous les autres musiciens, ils ne dansaient pas. Mais James Brown, il était connu en tant que danseur et chanteur en même temps.
Alors à propos de musique, on demande à tous nos invités cette saison de nous apporter un son. Et Brian Grazer, voilà ce que vous avez choisi.
Identification du son, Brian Grazer.
the song Lose Yourself,
which J'ai choisi la chanson Lose Yourself qui a gagné un Oscar pour le film 8 Mile.
Pourquoi vous aviez choisi Eminem ?
J'ai choisi Eminem pour ce film parce que il avait une qualité urbaine intense et il avait également cette fluidité, quelque chose de presque chimique. Il était capable de se tourner en dérision lui-même.
Vous avez toujours écouté du rap ?
Oui, j'ai commencé à écouter du rap à peu près 10 ans avant de faire 8 Mile, par le Wu-Tang Clan au départ, que j'ai très bien connu, ODB. J'ai également rencontré Slick Rick il y a 15 ans, avant 8 Mile. Slick Rick, ODB,
Chuck D, LL Cool J, it's like endless
LL Cool J.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous écoutez dans le rap ?
I still like rap.
Je continue d'aimer le rap. Pas trop.
Honestly, I like
honnêtement,
old school rap,
j'aime le rap à l'ancienne.
And some young rap.
Et
I sometimes like
quelques
Tyler,
rappeurs contemporains. Kanye, par exemple, a beaucoup de talent.
Rihanna,
j'aime beaucoup le concert d'Eminem et Rihanna.
Alors, vous le disiez, ce n'est pas le premier biopic que vous produisez, Brian Grazer. Si on devait faire un jour un biopic sur vous, quel metteur en scène souhaiteriez-vous pour le réaliser ?
Et quel comédien pour vous interpréter ?
To play me ?
Yeah.
Which director ?
Alors,
David
quel
Lynch.
Réalisateur ? David Lynch.
Pour quelle raison vous
choisissez ? Because I love the commitment to danger.
J'aime la manière dont il s'attaque au danger.
Donc vous deviendriez un héros de David Lynch.
Or an anti-hero.
Ou un anti-héros.
Et pour vous interpréter ?
To play me, well, the pop culture
pour me jouer
would be, Brad Pitt.
Je pense à Brad Pitt, à vrai dire.
The more likely version was
mais
the actor
plus vraisemblablement
in Matthew McConaughey movie that won an Oscar. I'm sorry, he's a singer as well. Jared Leto.
Il peut tout faire.
Yes. I like Jared Leto.
J'aime beaucoup Jared Leto.
Dangerous, committed, slightly
dangereux, un peu androgyne.
Benoît. Brian Grazer, votre père était procureur, je crois bien. Vous avez vous-même fait un temps des études de droit. Comment le monde de la télévision et du cinéma s'est imposé à vous dans les années 70 ?
Well, I was just very lucky. It was
en fait, j'ai eu
was
beaucoup
a,
de chance.
A lucky accident.
Il y a eu un incident qui s'est passé et j'ai eu de la chance. J'ai eu un travail. J'ai travaillé dans une étude de droit avant de rentrer dans l'école de droit. Et quand j'ai travaillé là-dedans, c'était pour Warner, j'ai été viré. Et on m'a dit de devenir écrivain scénariste. Alors je suis devenu écrivain scénariste. J'ai trouvé beaucoup d'idées pour la télévision. Et puis un petit peu plus tard, j'ai eu l'idée donc du scénario de Splash, un homme qui tombe amoureux d'une sirène.
Alors vous avez créé votre société de production Imagine Entertainment il y a maintenant une trentaine d'années, aux côtés du réalisateur Ron Howard. Quand vous vous lancez dans la production à l'époque, quel était le contexte à Hollywood ? À quel moment de l'histoire du cinéma américain vous arrivez, Brian Grazer ?
Je suis arrivé dans le cinéma américain donc en tant qu'employé de droit dans les années 70. Vraiment, à cette époque-là, il y avait de grands films qui étaient réalisés. John Frankenheimer était très important. William Friedkin était très important à l'époque. Ils avaient déjà fait des films très importants avec beaucoup de sens. Moi, je terminais le lycée et Easy Rider était sorti sur les écrans.
Alors,
les films étaient excellents, ils avaient des messages très importants à l'intérieur.
Est-ce qu'il y avait une figure de producteur qui a pu fonctionner comme référence pour vous ?
Il y a des producteurs pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Un d'eux, évidemment, c'est Richard Zanuck. Et l'autre, c'est Saul Zance. Saul Zance a produit Vol au-dessus d'un nid de coucou et Amadeus.
Alors, à côté du cinéma, il y a aussi la télévision. Vous êtes un acteur important de la télévision. Et vous avez fait émerger pas mal d'auteurs également à la télévision. Aaron Sorkin, vous avez été le producteur de Sports Night, qui a été une de ses premières séries. Aaron Sorkin, c'est le créateur de La Maison Blanche. Mais vous avez aussi lancé J.J. Abrams, qui aujourd'hui est considéré, notamment en France, comme le chouchou d'Hollywood. Quand vous l'avez rencontré, qu'est-ce que vous avez perçu chez lui ? C'était pour Felicity, sa première série, je crois.
So basically, I started in television.
J'ai commencé à la télévision.
Then I literally got kicked out of television.
Bah, on m'a juste viré de la télévision. Et puisque j'ai été viré de la télévision, il a fallu que je m'invente une carrière au cinéma. Et c'est à ce moment-là que Splash est arrivé. Parce que Splash a eu beaucoup de succès, grâce à cela, j'ai eu le luxe de revenir à la télévision. Et je me suis dit, je me suis promis, je vais essayer de faire que de la bonne chose à la télévision. Donc les deux premières personnes que j'ai engagées, c'était Aaron Sorkin et J.J. Abrams. Et donc, tout ce que je voulais, c'était vraiment de la qualité.
On parle beaucoup en ce moment en France de l'arrivée de Netflix. Netflix qui vous a permis de prolonger une série, Arrested Development, que vous aviez auparavant arrêtée sur la Fox. Qu'est-ce que l'arrivée de ce nouvel opérateur a bouleversé dans le paysage audiovisuel américain, Ryan Grazer?
Netflix is a... I like Netflix a lot.
Moi, j'aime beaucoup Netflix, déjà. Je pense que c'est une plateforme formidable en termes artistiques. Les artistes apprécient beaucoup la relation créative qu'ils ont avec Netflix. Et on aime également beaucoup, mais on ne sait pas combien de personnes le regardent. Vous n'avez pas il n'y a pas la même compétitivité avec que vous pouvez avoir avec un autre système. L'avantage de Netflix, c'est que les spectateurs aujourd'hui, ils aiment le binge viewing. Ce qu'on a fait par exemple avec 24 heures chrono, les gens n'aimaient pas attendre d'avoir le DVD. Ils ont ressenti exactement pareil avec Arrested Development, c'est qu'ils n'aimaient pas attendre d'avoir les DVD. Maintenant, il y a cette plateforme qui s'appelle Netflix. Qui s'applique vraiment aux artistes et aux consommateurs.
Brian Grazer, depuis vos débuts dans la production, qu'est-ce qui a changé dans votre métier?
Quand j'ai commencé, il y avait vraiment quatre grandes chaînes de télévision. Maintenant, il y en a 20 et il va y en avoir 20 plateformes donc de télévision câblée. Et toutes ces chaînes ont leurs fans loyaux. Quand vous êtes un producteur et que vous êtes intelligent, que vous savez traiter votre sujet, vous pouvez vraiment cibler le bon réseau qui a les bonnes personnes qui vont s'intéresser au sujet.
Dernière question, Benoît.
Oui, je crois que vous avez fait un caméo dans une série d'animation, Les Simpsons. Un souvenir de cette expérience, vous y teniez quel rôle?
En fait, bon, déjà, je suis flatté que vous m'ayez vu dans Les Simpsons. Je pense que j'ai été dans Les Simpsons deux fois, je suis très fier. Bon, pour commencer, tous les enfants, tous les ados aiment Les Simpsons.
Pas que les ados, les adultes aussi.
Non.
In France too, yes. Oh, adults too, yes, yes, yes. So, yeah, it's hip. I brought my kids to both recordings of the Simpsons.
J'ai amené mes enfants aux deux enregistrements pour Les Simpsons. Ils étaient dans la cabine sonore.
Quel rôle ils vous ont fait jouer?
Alors, une fois, j'étais le patron de Ron Howard.
And Ron Howard is pitching an idea.
Et Ron Howard
to me, and I'm
me raconte
saying,
une histoire, une idée. Et moi je lui dis, c'est vraiment de la merde cette idée.
Et la deuxième fois?
La deuxième fois, c'était plus court. En fait, je ne me rappelle pas exactement la deuxième fois.
Ça vous a moins intéressé?
Non, c'était intéressant. C'est plus intéressant en fait. J'étais plus le sujet de la blague, donc forcément j'oubliais.
As the object of the joke, I think I selectively
voilà,
forgot.
J'ai oublié.
Ce qu'on appelle un acte manqué. Merci, Brian Grazer. Merci beaucoup.
You, oh, merci. Thank you.
Si on devait faire un jour un biopic sur vous, quel metteur en scène souhaiteriez-vous?
Which director?
Alors,
David
quel
Lynch.
Réalisateur? David Lynch.
Merci à tous nos invités. Toute l'actualité du Festival du film américain de Deauville et les dates des sorties des films seront disponibles sur le site internet de notre émission. Ça, c'était pour aujourd'hui. Et demain?
Bébé, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal-être avec toi. La machine à café est détraquée. Les cendriers tous renversés.
Oui, je sais, c'est un peu téléphoné, mais ce sera Louis Bertignac avec à ses côtés le journaliste Philippe Dana. Des annonces, Benoît ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilotte. Journal de la culture Zoé Sfez, traduction David Rowe. À la technique, Alexandre Martin, Andras Jaffray et Tanguy Lecorneau. Chargé de production, Jean-Philippe Thomas. Et à la réalisation, Thomas Beau.
Vous pouvez télécharger, réécouter, podcaster et commenter cette émission sur le site franceculture.fr et participer à la vie numérique du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV. On remercie bien sûr toute l'équipe de France Culture et toute l'équipe du Festival du film américain de Deauville qui nous a accueillis ici. Il est temps de nous quitter le week-end Amérique de France Culture. Eh bien, ça continue. Vous écoutez France Culture, c'est bien.